Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
La dernière fois que je suis allée visiter Yvonne, une mamie en EHPAD, elle avait sur sa télé un truc complètement génial qui m'a fascinée. Ça s'appelle Helio et c'est un boîtier qui transforme n'importe quelle télévision en écran connecté. Sur cet écran, la mamie pouvait non seulement regarder la télé, mais écouter la radio, consulter les actualités de l'EHPAD et même communiquer avec sa famille par visio. Sur sa table de chevet étaient gardés précieusement les nombreux petits journaux personnalisés composés des messages et photos que ses proches avaient envoyés depuis leur application famille. En discutant avec Yvonne, elle m'a dit qu'elle se sentait autonome et connectée à sa famille, ses voisins et au personnel de l'établissement. Et je me suis dit que pour les familles, c'était le grand luxe de pouvoir lire le journal de l'établissement et savoir ce qu'il se passe dans la vie d'Yvonne. À force de rencontrer des mamies aux quatre coins de la France, on est toujours heureuse de découvrir des innovations qui permettent à nos aînés de ne pas être seuls mais toujours bien accompagnés. Et maintenant, je vous emmène à la rencontre d'Eliane.
Appel en cours. La porte est ouverte.
Ça va ?
Ça va, enchantée.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez à mes parents ? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter ? Les grands-mères ?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Eliane.
On se met là-bas.
Allez.
Tout préparé.
J'ai acheté du coca.
Mais j'en ai chez moi. Hein. La preuve, il est frais.
C'est vrai,
non,
mais...
non, laisse tomber ça.
Mais alors. Regarde, je les ai déjà achetés. Je te prends deux verres, Tata.
Eliane, c'est un soleil qui fait rire, qui nous captive, qui nous fait oublier tout le reste. À plusieurs reprises, j'ai dû lui redemander son âge, tellement elle me fascine.
Je vais avoir l'accent pied noir, là.
Et donc du coup, on va commencer par le début du début. Vous êtes née où et quand ?
Alger. Alger en 38. Ma mère, c'était les Trigano, donc Club Med. Mais pas de fréquentation. Donc nous, les pauvres, et eux, les... voilà.
La première guerre que vous avez vécue, donc la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez 4 ans ?
4 ans. J'ai eu la variole, d'ailleurs. J'avais attrapé la variole. Il y avait beaucoup de maladies à cette époque. C'était n'importe quoi. Il y avait des microbes partout. Le Covid, c'était rien. Dans la maison, on était une dizaine à avoir la variole. Donc je me souviens de ça. Ma mère qui m'a mitouflée dans une couverture et nous a amenés dans une ambulance. Et puis bon, elle pleurait. Moi, je la regardais pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai compris... C'était déjà trop tard. Quand elle est partie, pendant 40 jours, je n'ai pas vu mes parents parce qu'il ne fallait pas qu'ils me voient pour ne pas attraper la maladie, bien sûr. Et en plus de ça, il ne fallait pas que je les voie parce que j'aurais pleuré, j'aurais voulu aller avec eux. Donc eux, ils me voyaient quand ils venaient. C'était une vitre glace, vous savez. Donc eux, ils me voyaient dans le lit, mais moi, je ne voyais pas. Après la guerre... On était dans des quartiers arabes, hein. On habitait dans la Casbah, non. La Casbah, je m'en rappelle. Les maisons blanches, basses, les rues très étroites.
Vous dites on était dans un quartier arabe, c'est parce qu'il y avait plusieurs quartiers ?
Quartier arabe et quartier français. On était dans le quartier arabe parce que mes parents, après la guerre, ne pouvaient pas se permettre de louer ou quoi que ce soit. On avait cette opportunité d'avoir un petit appartement. On habitait quand même... 5 personnes dans un petit 2 pièces. Moi, on m'avait mis mon petit lit dans la chambre de mes parents. Et mes deux sœurs, elles défaisaient leurs pliants le soir, où c'était la salle à manger. Après, non, on a habité Babeloued, on a eu un appartement en réquisition. C'est-à-dire que c'était une vieille dame qui était tout de suite partie en métropole. Tous ces appartements vides, c'était réquisitionné. Parce que la Casbah, c'était dans les hauteurs. On descendait, c'était tout de suite la ville. Babeloued, c'était le début, c'était le centre. Le centre, si vous voulez, pied noir, voilà. Hein, on se fréquentait tous, c'était comme un village. Et après, il y avait les autres quartiers chics, la rue Michelet, voilà, un peu ici. C'était beau. La mer, n'en parlons pas.
Il y avait la mer partout ?
Partout. Même en ville, c'est-à-dire où nous, on était à Babeloued, on descendait, la plage de la ville était là. Alors ma mère nous amenait tous les étés en semaine. C'est faux parce que ça fait comme un fossé, comme un truc vertigineux. Dès qu'il y a eu la guerre, il y a eu la haine, tout le monde se demandait ce qui se passait.
Et donc après, vous êtes partie de la Casbah pour aller dans le quartier français ?
Le quartier français de Babeloued, où c'était vraiment, alors là, on habitait dans une maison bourgeoise, et on habitait en rez-de-chaussée. Alors là, c'était le château, quoi. On avait quatre pièces, salle de bain. On ne connaissait pas la salle de bain.
Vous faisiez comment ?
Eh bien, une cuvette, le matin, on se lavait comme ça. Toutes les semaines, on allait au hammam, pour se laver vraiment bien, quoi. Tout le monde allait au hammam. Et puis, c'était le seul endroit où on pouvait vraiment bien se laver. C'est vrai qu'on se décrassait pour une semaine, hein. Parce que là, on avait la bonne femme qui nous frottait avec le grand gant, comme ça. Nous, le petit, on appréhendait. Je ne veux pas, on criait, on pleurait. Alors, elle nous savonnait la tête, ça dégoulinait le ventre. On pleurait, maman, je ne veux plus rien. Un seau d'eau, tac, ça y est. Mais ça se passait comme ça. Hein. C'était la bonne vie. Tout le monde venait à la maison. Mais c'est ça aussi qui se passait. Là, quand on fait la différence d'ici, et même peut-être les Marseillais diront pareil, hein, et là-bas, on était tous l'un chez l'autre. On laissait les portes ouvertes, puis ça rentrait, ça sortait, c'était ça la vie. Comment dire ? C'est autre chose, quoi. L'école, c'était comme partout, hein. Le maternel, machin, tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on respectait beaucoup les maîtresses. C'était les maîtresses, nous, on n'avait pas d'hommes. C'était la tête baissée, c'était le respect, c'était...
Il y avait des punitions
Oh oui. Et on en avait peur, hein. Alors là, oui. Oui, ça, je me rappelle. Montre ta main, fais ça. Pam ! Et des coups de règle là-dessus. Ou alors, tire l'oreille. Voilà comment ça se passait. Mais voilà, ce qui se passait avec moi, c'est que c'était, comment dire, on était de connivence, mon père et moi, voilà, c'était ça. Il voulait acheter une voiture, il m'appelait. Et puis alors, les voitures, c'était une collection, hein. Ah, ma fille, et puis ma mère, c'était la fourmi, mon père, c'était la cigale. Alors, c'est vrai que ça faisait des vagues à la maison, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore, ton père ? Il a acheté, dis-moi. Non, maman, non, c'est rien, non.
Et du coup, il vous a laissé apprendre à conduire ?
Il m'a laissé, ah oui. Moi, je voulais aussi, hein, attention. Quand j'ai eu le permis, mais j'ai eu tout de suite, hein. Le permis, on habitait en rez-de-chaussée. Alors, par la fenêtre de parce qu'on avait, comme ici, les rez-de-chaussée avec les barreaux, hein. Je m'attrape comme ça, je dis, papa, j'ai réussi ! Pour un truc que je réussissais, tu parles ? Alors, fait... Ah oui, alors on va faire la fiesta. Et puis voilà, et puis ça se passait comme ça. Comme après on a eu les événements, ma mère avait peur que je prenne la voiture, que je sois... C'est vrai que c'était délicat. Ça fait que j'ai pas conduit là-bas. C'est dommage. Et après, bon, je saute un peu les étapes. On est venu ici. Je n'ai plus conduit parce que je me suis mariée, j'ai eu les enfants. Je suis restée 25 ans sans conduire. Et puis, on n'avait qu'une voiture. Mon mari, il était fonctionnaire, donc on ne pouvait pas prendre deux voitures. Et puis je me sentais pas, j'avais les enfants petits, bon, j'avais pas envie, je restais comme ça. Et un beau jour, on habite ici. On avait l'habitude, moi, en sortant de son travail, mon mari, quand j'allais faire mes courses, on se disait, bon, voilà, tu m'attends là, j'ai les courses, et tu viens me prendre en voiture. Et un jour, mais heureusement d'ailleurs, il se trompe de magasin. Et il attend, il dit, oh, ben, elle n'a pas dû aller aujourd'hui, c'est pas possible. Il rentre là, il reprend sa télé, et moi j'attends, puis je dis, bon, écoute, je vais demander à quelqu'un, tant pis, savoir ce qui est arrivé. Et quand j'arrive ici avec la marchandise, je le vois tranquille, pépère. Ou alors la colère. Et c'est là que j'ai dit, ah, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais reprendre le volant. Je vais conduire. Comment on va ? Je m'en fous. Je suis un peu nature, moi. Hein, je suis pas... Trois cours, j'ai pris. Il m'a fait faire la gymnaste. Là j'ai eu la tremblote. Après ça, il me dit, bon, vous avez fait ça, c'est que c'est bon. Tranquille. Vous pouvez conduire. Attention, pas avec votre mari. Hein. Il avait raison, parce que lui, c'était infernal au début. Hein. Allez, le frein, la première. Je dis, mais arrête! Et puis on se bagarrait, on se disputait. Et puis après, ça fait 30 ans. Hein. Alors, c'est pour vous dire. Enfin, voilà. C'était autre chose. C'était le paradis. Quand je pense, avant cette guerre, c'était le paradis chez nous.
Et du coup, quand vous alliez à la plage, vous baigniez ?
Bien sûr.
Et vous baignez comment ?
Les petits deux pièces, bikini ? Ah ben oui, quand même. Ah ben oui. Bon, il y avait une pièce, souvent celle qui était un peu gênée ou un peu grosse. Souvent, on allait toutes les deux, ma soeur et moi, pour ça. On se brûlait. Alors, c'est assez comme ça, regardez, Paulette. Non, allez, va. Fais de l'autre côté. L'autre côté ! Et on se tournait sur le matelas. Et quand on arrive à la maison, c'était frais, parce que ce soleil, vous savez, je vais vous dire, c'était sûrement 50 degrés au soleil, c'est au moins. Je ne sais pas comment on faisait, mais on supportait. Hein. Et bien, on arrivait de là, on prenait notre douche, et ma mère savait qu'on allait venir tard, elle nous avait tout préparé sur la table, les petites salades, les machins. On faisait une razzia de ça. Elle nous entendait manger, je dis, ouais, maman, c'est bon. Et après, la sieste. À la sieste, il fallait la faire. Il faisait trop chaud. D'ailleurs, les musulmans, quand ils arrosaient, c'est eux qui faisaient l'arrosage des rues. Et comme j'étais au rez-de-chaussée, moi, je voyais de temps en temps, je regardais comme ça, la fumée qui sortait du parterre. Tellement il faisait chaud, ça s'évaporait. C'est des choses qui me sont restées, mais à vie, hein, ça, hein, ces images, voilà.
Et comment on fréquente des garçons, sachant qu'on n'est pas dans la même école ? Parce que nous, nos premiers amoureux, c'était à l'école, parce qu'ils étaient dans notre classe.
Ah, il n'y avait pas d'amoureux, là. Non, 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 non. Non. Jusqu'à l'âge de 14, 15 ans. Moi, à 16 ans, j'ai eu, elle va le savoir. 16 ans, j'ai eu mon premier flirt. Eh bien, c'était une copine que j'avais, une copine Nicole. Elle, c'était la petite coureuse, hein. Elle était dégourdie pour ça. Et puis, comme on était toujours ensemble, tout ça, bon, on travaillait déjà, on était dactylo, là. Hein. Et un jour, elle me dit, celle-là, elle me dit, parce qu'il y avait le front de mer, on appelait le front de mer, c'était une sorte de grand parapet qui donnait sur la mer, sur les plages de ville. Hein. Et il y avait tous les amoureux, là, qui se promenaient. C'était bon, il y avait tous les amoureux. Alors, quand elle me dit front de mer, tout de suite, je dis, ben, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Elle me dit, mais non, parce que je vais te présenter Georges. Tu vois, pour te dire, c'est le premier, on se rappelle toujours. Alors, je ne sais même pas si j'avais raconté à ta mère. Alors moi, je dis, bon, ma foi, allez, va pour Georges. Là, je vais voir s'il me plaît. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il avait l'air un peu rock'n'roll, la banane, un peu, comment, un genre. Mais beau, beau petit mec. Et j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'il me donne, celle-là, alors. Bon, et puis bon, voilà, on commence à discuter. Et puis, un moment, hein, ça arrive. Et puis, je fais, Bert, qu'est-ce que c'est ça?
Il vous a embrassé.
Et après, oh ma chérie, ça va, tu passais par là, on est tous.
Mais
après, ça m'a plu, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai. C'est vrai. On allait moins dans les balles et on fréquentait les étudiants. C'est-à-dire qu'il y avait un établissement où c'était, ça s'appelait le club des étudiants. Maintenant, comme elle, Nelly, elle a été sage-femme, donc elle a fait ses études, moi j'étais avec elle, je passais pour, comme une étudiante. Alors je lui demandais, dis-moi, donne-moi des trucs de médecine, là, que je puisse être à la hauteur quand même. Et les balles populaires, comment c'était? C'était magnifique aussi. C'était ce respect du garçon avec la fille. Il venait comme ça, vous dansez, puis ce petit truc comme ça, tu vois.
Il se courbait.
Ah oui, absolument, mais oui, vous dansez. J'ai eu même un copain, un papy, à mon mari, avec qui j'avais dansé. Et après, quand c'était marié et qu'il me l'a présenté, j'ai dit, je vais danser avec celui-là, moi.
Et vous dansiez quoi?
Oh, alors là, c'était magnifique. Les tangos, les passos, les cha-cha-cha, les tout, quoi. On aimait danser.
Ça restait toujours des bisous?
Oh oui, pas plus. Non, non, ça, non. Ça, c'était défendu. On passait tellement au respect de nos parents que c'était pas possible, ça. C'est ici, quand je suis venue ici, que je voyais que c'est les Françaises et les Parisiennes.
Et vous dites que c'était défendu, c'est que vos parents vous avaient dit c'est hors de question. Ou c'est que vous...
Ils n'avaient même pas besoin, ils n'avaient même pas besoin de nous dire. Ah non, pas besoin de nous dire. On se confiait toujours, ma soeur et moi.
Et vous aviez eu une sorte d'éducation à la sexualité ou non? Jamais on parlait de ce que c'était.
C'était tabou, c'était... Oui, c'était un peu... C'était... Oui, tabou, ça je peux le dire quand même. Hein. Et puis à l'école, on parlait. À l'école, oui. En classe, on parlait beaucoup de ça. Seulement, c'était ridicule parce que des fois, c'était déformé. Avant d'avoir les règles, ils nous disaient, tu vas voir nous, hein, les filles. Hein. Oh, oh. Alors ça faisait peur. C'était des fois exagéré, alors on avait peur. Total, après, quand c'est venu, bon, c'est venu. Mais beaucoup de choses. Et quand on se marie, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait avec la femme, c'était un mystère, ça faisait peur. C'était l'inconnu, voilà.
C'était l'inconnu. T'avais peur le jour de ta nuit de noces?
Tu vas me découvrir, toi. Hein. Putain. Soir des noces, non mais je vous assure, j'ai pas eu peur du tout. Du tout. Même, je ne sais pas si c'est parce que j'aimais mon mari aussi. Hein. Pour moi, c'était naturel, voilà. C'est venu naturellement, voilà. Pas difficile. D'ailleurs, on prenait les bains, dans la baignoire, on avait été en voyage de noces, et on avait une belle salle de bain avec l'air à la baignoire. Alors, on prenait le bain tous les deux dedans. Mais on s'amusait, c'était enfantin, c'était beau. C'était magnifique, voilà.
Juste pour comprendre, vous avez eu le certificat d'études.
Oui.
Et après, vous avez fait...
Après, j'ai appris la dactylographie et j'ai travaillé.
Vous avez pris des cours chez Pigé ou...
Oui, Pigé, oui. Ah, c'est... Hein. Ah, ben oui.
Connaît, hein.
Oui. Oui, oui, oui. Je voulais faire dactylo parce que c'était... L'orthographe, c'était le français. Et moi, j'aimais ça. Et c'est vrai que j'étais très forte, voilà. Tout ce qui était français, j'adorais ça. Donc, c'est vrai. Il n'y a que les maths, c'était ma bête noire, voilà. Et c'est même par rapport à ça que j'ai quitté l'école. Quand on disait « Calcul !» J'étais malade. Si je pouvais plus me mettre sous la table. Alors, j'ai travaillé au palais de justice, à Alger, hein. Au palais de justice d'Actilo, tac, 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 bec tout bêtement, je tapais des grosses. Il y avait une machine Underwood, oh là, ça faisait un bruit. Et j'avais été au génie militaire, j'avais passé deux ans là, d'Actilo toujours. Et puis après, je me dis, c'est si tu veux quand même de continuer à faire tac. Quel intérêt? Je vais faire sténo. Oh, moi, je dis à mon père, papa, je vais faire sténo. Et qu'est-ce que tu vas faire sténo? Regarde tes soeurs, ils ont fait, puis. Je me disais, je veux faire. Puis quand je voulais, je faisais la chose. J'ai bien fait d'ailleurs. Et après, ça a été la compagnie de navigation mixte, Alger toujours, ma dernière place, où j'ai été sténo.
Alors, et voilà. La différence entre sténo et dactylo, c'est quoi?
Ah ben, c'est-à-dire qu'on vous, on vous dicte un truc et puis vous prenez avec les signes qu'on a appris. Ça va vite, hein? Comme, beaucoup. Oui, ça me revient. Ah oui. D'ailleurs, des fois, quand on me prend un truc au téléphone, je prends un sténo. J'ai travaillé ici, à Marseille. Et là, après, je me suis mariée. On est parti à Paris. Mon mari, il avait travaillé comme fonctionnaire à Paris. On habitait donc un petit studio parce qu'on était tous les deux, on était nouveau mariés, bon bref. Alors bon, je m'ennuyais. Qu'est-ce que je fais moi dans ces quatre murs-là? Mon mari rentrait que le soir. Je connaissais personne. Et puis je me promène. Alors c'était ici le Moulineau et Vanves tout de suite. Hein, ça touche. Et je vois, je franchis Vanves et je vois l'écusson de notaire. Et puis, qu'est-ce que je risque? Je sonne. Et je rentre, madame, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, je voudrais. Voilà, je cherche un emploi. Sans parler à mon mari, rien. Alors, il dit ben, écoutez, installez-vous là, on va en parler à Maître Baudouin. Et s'il veut, il vous prend. Prenez une lettre. Bon, je rentre dans ce Capharnaüm, puis je prends un autre, tata, je lui tape. Tout, hein. Vous êtes libre? Libre, oui. Oui, maître. Eh bien, quand vous pouvez, demain, si vous voulez. D'accord. Mais moi, le soir, va lui dire à mon mari. Il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru. Mais je dis, mais attends, oh, ça ne va pas, toi. Tout ça, en un rien de temps, tu vas... Bon, il me croyait tellement pas, je ne sais pas si je l'ai raconté, que le matin, il s'est dit, elle va dormir comme d'habitude, tu vois. Et moi, je me suis pris ma douche. Alors, j'ai... Jusque-là, tu vas. Mais tu te rends compte, jusque-là, tu vas. Tu me fais la comédie. Mais tu te rends compte un peu? Il ne me croyait pas. J'ai dit, tu veux que je te dise? Tiens, un petit peu de temps. Viens avec moi. Je vais rentrer chez le notaire. Et jusque devant la porte du notaire, je sonne, on ouvre la porte. Ah, bonjour madame. Alors, vous commencez ce matin? Oui, voilà mon mari, je vous le présente. Oh, purée de merde. Oh la vache!
Il était ok pour vous travailler?
Ah ben même s'il n'était pas ok, hein, moi je travaillais. Hein.
Vous n'avez pas trop laissé le choix?
Ah non, ça pour ça. Mais il a été, toujours été gentil. J'ai travaillé 2 ans, après j'ai eu Fredo, j'étais enceinte. Après on a eu la HLM à Saint-Denis. Saint-Denis à l'époque c'était un beau quartier. Je prenais le métro. De Saint-Denis, c'était Porte de la Chapelle, jusqu'à ici, les Moulineaux, les 25 stations. Alors, il nous dit, une fois j'ai vomi sur un passager, hein, moi. Excusez-moi, madame, sortez. Alors je sortais à un arrêt, puis j'attendais le prochain pour reprendre l'autre. Non, ça a été... Mais j'ai voulu tenir jusqu'au bout. À 8 mois, même mon clerc, il me dit, Timoa, parce qu'on n'avait pas l'échographie encore, on ne savait pas. Alors il m'appelait Petit Moa. Alors, croyons-moi, on pensait que c'était un garçon. Effectivement, c'était un garçon. Petit Moa, non, tu ne peux plus rester. Ce n'est pas possible. Il faut rester chez toi. Et oui, mais Maître Baudouin, qu'est-ce qu'il va dire? Je m'en charge, laisse tomber, c'est bon. Et puis, j'ai accouché. Et je leur ai dit, c'est fini, je ne reviendrai plus. Vous savez pourquoi je vais vous dire? Je vois les petites Parisiennes avec leur bébé, la neige. Ils vont les amener dans le froid. Et ça, c'est la vérité. Je le voyais du balcon, je les voyais. Et je me suis dit, je vais faire ça, moi. Mais pas pour moi, pour mon petit. Et pourtant, je gagnais bien. Bon, je gagnais plus que tonton. Hein. Ah oui.
Et votre mari, ça ne gênait pas que vous gagniez plus?
Non. Non. Par contre, quand j'ai dit j'arrête, il m'a dit, bon ben, ceinture. C'est fini, hein, la bonne vie. J'ai que ma paye. Je dis, ça fait rien. On était heureux quand même.
Il faut vraiment imaginer Eliane au dîner annoncer à son mari que demain, elle commence un travail chez un notaire. Ça ne devait pas être de tout repos de partager sa vie avec elle. Alors si Eliane nous raconte avec caractère sa carrière, nous revenons maintenant sur la guerre d'Algérie et le départ de son pays natal.
La La guerre d'Algérie, vous vous en souvenez?
J'avais 18 ans, mais bien sûr. J'ai vu des morts devant moi. J'ai vu des Arabes abattus par l'OS. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Et là j'ai eu peur. Là ça m'a... C'est Far West, quoi. C'était... Ou toi ou moi, c'est toi. Alors tiens, tac, une balle. Mais c'était arrivé à ce point.
Et vous étiez parti pour de bon?
On était 5, on avait pris le Constellation, je me rappelle.
Donc vous prenez l'avion en vous disant que ça y est.
C'était fini.
Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Et je me rappelle que je me suis retournée. On avait pris le taxi pour aller chercher ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Et je me retourne et je vois cette rue que je faisais tous les jours pour aller à l'école. Et là, j'ai pleuré. Oh!
Vous saviez que vous ne reviendriez jamais?
Je ne savais pas. Moi, avec mes sœurs, à un moment donné, on voulait y retourner. On voulait y retourner pour voir. Et puis, ma voisine, qui m'a donné ses photos, elle m'a dit, Eliane, je ne conseille pas de retourner. C'est plus ce qu'on a laissé. C'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'on met dans sa valise quand on part comme ça? On emporte quoi?
Oh, alors là, mes affaires de... strict nécessaire, quoi.
Et vous arrivez à Marseille?
Oui. Et j'allais chez ma sœur. Et après, quand il y a eu l'indépendance, on a tous habité chez ma sœur. Attends. Un petit 70 mètres carrés, il devait faire quand même. 8 personnes là-dedans, dans un petit appartement. Bon, on n'est pas resté longtemps. Tiens, mais je vous raconter une bonne anecdote aussi. Oui, ça aussi. Heureusement que j'étais solide. Hein. Quand je travaillais à la mixte, c'est vrai que j'étais toujours l'avocate du diable. On était, j'étais moi, une autre, trois juifs. On était un juif et deux autres juives. Un beau jour, ma foi, je ne comprenais pas. Ça parlait beaucoup derrière, hein. C'est vrai que ça parlait beaucoup des juifs et des machins, tout ça. Et puis des races, quoi, des religions, ça. Parce qu'on faisait, ça m'a rappelé les casseroles quand ils tapent maintenant. Nous, on faisait l'Algérie, française, sur les casseroles. Et à un moment donné, ils vendaient donc des petites casseroles pour se les accrocher comme des petites broches. Alors moi, je dis à ma copine, Claudine, je lui dis, dis-moi Claudine, j'ai pas eu des petites casseroles, pourquoi? Oh, il y en a, laisse tomber. Pourquoi? Eh bien, comme j'en veux, moi, mais je donne, moi, les... Parce qu'on donnait 5 francs, ou je ne sais rien, c'était des francs à l'époque. On les achetait, quoi. Pour l'Ouest, tout ça. Hein. Alors bon, elle m'a avoué que c'était parce que j'étais une juive. Fallait pas que je... Que j'avais pas le droit à ça. Pauvre. Ils ne me connaissaient pas. Hein. J'ai été, bon, je me suis disputée, j'ai tapé, et puis c'était ce hall-là, dès qu'on criait un peu, ça résonnait. Alors tu parles, quand j'ai gueulé, tout le monde, même les clients, ils m'entendaient, enfin bref. Bon, c'est secondaire. Ce que je veux vous dire, principalement, c'est qu'à un moment donné, comme ils me voyaient comme ça, c'est pour ça que je vous décris un peu comment ils me voyaient là-bas. Un jour, mon chef de service, il me dit, mademoiselle, tiens, je voudrais que vous rentrez dans mon bureau et j'ai à vous parler. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà ce qui se passe. Jusqu'après, c'était un type de l'OS. Il me dit comme ça, voilà. Alors il me dit, ben, on a une femme qui nous rend des services, qui prend des plastiques pour les explosions, pour les bombes. Hein. Le plastique, c'était pour les bombes. Alors il me demande, il me dit, voilà. Donc cette femme-là qui nous fait ça, elle est enceinte, on ne peut plus lui demander. Moi, je l'écoute, et puis je dis, je rêve ou... C'est pas possible, qu'est-ce qu'il me demande celui-là? Alors il me dit, voilà, je vous demanderai, si vous voulez, de le faire à sa place. D'autant plus, le danger où il était, c'est qu'il y avait des patrouilles françaises qui fouillaient. Les gens, de temps en temps, ils fouillaient sur eux. Oh, je dis, moi, je ne vais pas aller en prison, je suis folle. J'ai, alors il me dit, mais par contre, je vais vous dire, faut me dire de suite. Et si, surtout, surtout que ça reste là, ni même à vos parents, personne ne vous en parlait. Vous entendez? Mais tu sais, quand on voit les films de policiers, là, je dis, mais j'ai vécu ça, moi. Alors, il me dit, j'ai dit non. Vous me voyez comme ça, mais je suis une peureuse de première. Oh, jamais de la vie. Oh non, non. Il me dit, d'accord. Mais attention, hein, pas un mot. Tu parles. Le soir, j'arrive, je parle à ma mère. Aïe, 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 prends l'avion demain. J'ai dit, quoi? Si je prends l'avion demain, ils vont savoir que j'ai parlé, maman. Surtout pas. Je continue comme d'habitude. J'ai parlé à mon père. Ben, elle a dit, elle a raison. Laisse, elle craint rien, elle craint rien. Ben, ça, c'est que même si je partais, je faisais du mal à mes parents. Hein. Ah, ils étaient capables à tout, ces gens-là.
Pourquoi vous avez dit que vous n'aviez pas le droit, mais que vous étiez juive de Jean de l'Ouest?
C'était des anti-juifs. Et ça, je m'en suis rendu compte par des petites choses comme ça qui se passaient. C'est à partir de là qu'on a vu le racisme aussi, avec les Arabes, avec les Juifs, avec, voilà. C'est là que ça s'est déclaré, tout ce racisme en bloc. Et ça m'a fait un mal pas croyable. Et quand je le racontais après à mes parents, ils disaient, mais ma chérie, on a vécu ça, nous, déjà. Nous, on l'a vécu pendant la guerre, ça. Enfin, on a toujours été françaises. Toujours on était français. On a toujours été. Bon, et quand il y a eu la loi Crémieux, là, bon, ça a été quand déjà beaucoup de changements, mais on était français. Mais on était tous français. Seulement, c'était la question de religion, de race, ou j'en sais rien. C'est... Toi, tu es juif, voilà. Et même, je vais vous dire la vérité, même au notaire à Paris, un beau jour, on voit une femme arriver, bon, c'était une Tunisienne, tu vois un peu les bijoux, machin, c'est vrai que c'est pas joli. Bon, elle va voir le mien, mon clerc. Elle parle avec lui. Bon, alors madame, oui, voilà. Je ne sais pas quelle affaire elle avait. Elle sort et lui, sachant pas que je suis une juive, parce que j'étais quand même, j'avais l'air un peu espagnole, moi. Pas du tout le type, comme il dit. Tu as vu, Albert, tu as vu? Voilà, encore une youpin. Une youpine. Les youpins. C'était les noms qu'ils nous donnaient. Des youpins. Les juifs, c'était des youpins.
Et donc il a dit ça comme ça?
Il a dit ça, mais vraiment bien affirmatif. Hein. Ah oui, comme ça. Je suis restée seule avec ma copine, la secrétaire, l'autre. Et puis je lui dis, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu vois, ça, ce qui vient de se passer là. Eh bien, il a eu tort. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Ben, parce que moi, je suis une juive. Oh là là! Puis avec l'accent parisien. Ah ben oui, alors. Ben oui, hein, je comprends, hein. Ah ouais, d'accord, mais bon, ça passe une fois, mais pas deux. Hein. Et c'est repassé. Ah, ça, il rattrapa. Et il n'a pas raté. Et il a commencé les houpins, machin. Je me lève, je vais à son bureau, et je le regarde comme ça. Je lui fais, regardez mon nez de profil. Regardez mes jambes, c'était belle, moi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a mal à moi? Pourquoi vous me dites ça? Regardez-moi bien. Je suis une youpin, moi aussi, oui. Hein. Quoi? Ah! Je vous croyais espagnole, moi. Il a dit, excusez-moi. Non, vous pouvez vous excuser pour moi. C'est là et ça restera là.
Mais du coup, toi, ton tonton, tu l'as rencontré en France, tu ne l'avais pas rencontré en Algérie?
Non. Son grand-père, il travaillait avec lui, au trésor. Bon, et comment ça s'est fait? Ça s'est fait que quand on a fait la circoncision de son père, il le rencontre dans la rue, il dit, oh moi, mon Dieu, ça fait plaisir de te voir, c'est au mois d'août, il est en congé, mon mari. Écoute, je fais la circoncision de mon fils, allez, viens. Oui, mais j'ose pas, tu sais, oui, bon, mais non, mais viens, c'est vrai, ça me fait plaisir, viens. Et puis voilà. Bon, je l'ai vu, moi. Casse pas trois pattes à un canard, hein. Allez, hop, il veut celui-là. Hein. Et lui, tout de suite, paf, coup de foudre, ben alors. Hein. Bon, et puis, c'est idiot quand même. Regarde, pour vous dire. J'étais avec, on était deux, trois copines, hein. avec qui on allait à la plage, on tout sortait danser, enfin bref. Et qu'est-ce qu'elles me disent ? Oh là là, ce type-là, il a une voiture, il nous emmènerait à la plage. J'ai dit non, mais ça va pas, vous voulez que je le fréquente pour que vous alliez à la plage avec lui ? Ah non, non, mais ça va pas. Non. Et puis non. Et puis après, j'ai dit pourquoi pas, merde, allez, va. Alors, ah, vous voulez aller là ? Oui, on veut aller. Ben, c'était en France, ici, hein, au Lec. Vous amène au Lec, il nous amène au Lec, le pauvre. Écoute-moi bien, ça, je veux que ça te rentre dans ta tête et dans ton cœur. C'est ridicule de juger quelqu'un du premier regard. Mais c'est ridicule, mais alors. Alors que quand j'ai commencé à parler avec mon mari, à le fréquenter, sans plus, sans bisous, sans rien, tout dire, hein. Et là, j'ai découvert la personne. Voilà. C'est ça la différence. C'est que j'ai découvert quelqu'un qui m'allait, mais alors comme un grand. Parce que moi et lui, on était complètement différents. Mais alors tout à fait différents. Tout à fait. Mais alors, on ne peut pas dire mieux. Lui, c'était le type sage, tranquille. Bon, il avait ses colères aussi, hein. Mais tandis que moi, c'est tchac.
Entre le moment où vous commencez, il commence à vous emmener à la plage et le moment où vous vous mariez, il se passe quoi?
Alors, il était à Paris, moi ici. Alors du coup, on correspondait. Et la correspondance, c'est là que je l'ai découvert. C'est là, j'ai toute la correspondance ici.
C'est vrai.
Je l'ai. Parce que quand on parlait, des fois, je prenais du recul, j'avais honte, je n'osais pas. Tandis que dans l'écriture, on se dit tout. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Dans l'écriture, on se dit tout. Et on se découvre, mais alors, c'est une merveille, quoi. Et après, ça nous permettait, quand on se voyait, c'était ah, tu m'as dit ça dans la lettre, c'est vrai, tu penses ça? C'était romantique, ouais, c'était beau.
Et vous vous souvenez du moment où vous êtes tombée amoureuse?
C'était insensiblement. C'était pas le coup de foudre. Lui, oui. Mais il m'a aimée. Mais moi, ça a été la découverte. Une découverte. C'est comme quand on effeuille quelque chose et qu'on dit, tiens, oh, ça. Ah oui, hein. Ah, voilà, c'était ça avec mon mari. Moi, j'ai connu quelques... je n'ai pas vécu parce que mon mari était jaloux sans... Il était jaloux, mais il n'était pas à ce point. Moi, je me rappelle que Tata Yvette et Roro, ils voyaient quelqu'un qui regardait sa femme, ils le bastonnaient. Hein. Ah, ça, c'est, à Babelot, c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me la regardes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, ça se passait comme ça. Ah, ben, ça va, je n'ai pas regardé. Allez, tchoum, il y a un coup de boule. Mais c'était ça. Ça, je n'ai pas voulu accepter. Ça, je n'aurais pas accepté. Et un jour, on était, je ne sais pas si je l'ai dit, on était à un mariage, on était nouveau marié, j'étais toute mignonne, tout ça, et puis moi j'avais une robe, il faisait chaud, c'est en plein mois d'août, j'avais un truc en guipure par-dessus, sinon quand je l'enlevais, j'avais le dos tout nu, c'est-à-dire ça faisait tout ça, comme ça, et mais j'étais coquette moi, je m'étais acheté un soutien-gorge qui s'agrafait en bas, donc, tu vois un peu, alors... À un moment donné, il y a eu un tango. Et puis, je cherche mon mari, je ne le vois pas, Et puis, il y a un monsieur qui vient. « Madame, vous permettez ?» Je dis, « Ben oui, hein, ma foi. » Mais sans arrière-pensée. Et puis, il met sa main sur ma chair. Oh, pétard. Alors là, oui, je l'ai vu. Il vient. Il fait comme ça. Il me prend comme ça. Il fait, « Monsieur, c'est avec moi qu'elle danse, c'est ma femme. » Allez, hop pouh. Mais seulement... Je lui ai dit, attention, tu me l'as fait une fois, tu ne me l'as fait pas deux fois. Parce que c'est ce genre de truc, j'accepte pas. Tu as confiance en moi. Et puis bon, on a eu des discussions. Il m'a dit, oui, ma chérie, mais bien sûr, j'ai confiance. Mais voilà.
Et comment il vous a demandé en mariage?
Comment il m'a demandé en mariage? Il était très timide. Il avait la gorge serrée, ça je me rappelle. Et puis bon, en me disant qu'il m'aimait, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se fiance, si tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Toujours, il me disait ça. Je dis, oh, c'est un petit peu trop tôt, un peu. Et puis après, je te dis, quand il y a eu ce courrier et tout ça, après, même moi, dans mes lettres, quand je les relis, je vois comment je tombe amoureuse. C'est fou, hein? On voit la différence du début de ces courriers et vers le mariage, mais c'est... Ah. Voilà, et puis après, bon, ben on est notre vie. 53 ans quand même, hein. 53 ans de vie. Et des fois, je me surprends de penser à lui et dire... Mais, alors, il y a une chose que je peux dire, c'est que les histoires, les bagarres, tout ce qu'on a pu avoir, je ne me rappelle plus. C'est évanoui, c'est parti dans un sac, et il est parti, ce truc-là. Il me reste que le beau souvenir. Et c'est là que j'ai de la peine. Pardon. Bon, comme j'ai dit à mon fils et à mes enfants, je leur dis, j'ai eu mes petits-enfants quand mon mari est mort. Il est encore petit, les deux derniers. Alors, ils m'ont aidé à mon deuil.
Il est parti il y a combien de temps ?
7 ans. Ça fait la 7e année. Seulement, ils grandissent, les enfants, ils grandissent. C'est leur vie, c'est normal. Et c'est maintenant que je souffre le plus. C'est maintenant que je crois que je fais mon deuil. C'est maintenant. Et c'est dur. Ouais. Mais c'est qu'on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a. C'est pour ça que je dis toujours à mes petits-enfants, profitez des moments présents, des bonheurs présents. Mais vivez-les à 100%. Voilà. Vivez-les mais plein pot. Parce qu'il n'y a que ça qu'on emporte. Moi, j'ai parlé beaucoup, là, quand même.
J'ai encore plein de questions. Je peux en
prendre. Et vous n'avez pas, et oui, vous n'avez pas mangé. Et oui, prenez, regarde. Et toi, mange.
Je vais prendre. Et vous vouliez avoir des enfants ?
Ah oui. Ah, je ne me serais pas vue sans enfants. Non. Et mon fils, comme il faisait 4 kilos, siège, petite comme j'étais, on m'a fait une césarienne. Non, j'ai pas peur, je m'en fous. Mais c'est bête quand même, c'est dommage. Moi, je voulais que ce soit normal, quoi. Et puis non. Bah, il m'a dit, il y a un risque, hein. C'est ou toi le bébé, alors il faut choisir. Ah, j'ai dit, ah non, alors là, ça va. Et puis, c'était pas les césariennes de maintenant. Césariennes de maintenant, c'est un petit truc comme ça, horizontal. C'est pas la même, je sais pas si vous en avez entendu. Moi, d'époque, c'était du nombril jusqu'en bas. J'avais 20 agrafes. Et les agrafes, je vous dis pas, c'était des morceaux comme ça de fer. Tchac, 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 tout là, tout le long. C'était les césariennes d'avant. J'ai dégusté, hein.
Anesthésie générale ?
Anesthésie générale, morphine. Je suis restée 3 jours avec la morphine. C'est trop, ça aurait pas été vivable. Et le temps de cicatrisation, je suis restée 12 jours à la clinique. Et un soir, j'avais avalé de travers ma soupe. Et je voulais pas tousser. Je voulais pas tousser. Il me semblait que ça allait tout s'ouvrir. Alors ça risquait rien. J'avais soigné l'infirmière qui vient. Elle m'a tapé dans le doigt. Elle m'a dit, c'est rien, madame. Non, non, vous risquez rien. Oh, c'est un peu de finesse. Hein. Maman. Et j'étais, bon, ça, c'est autre chose. J'étais enceinte d'un troisième. Et j'ai peur du jugement dernier de ça. J'ai fait une IVG. Je faisais une déprime. Et je me sentais pas un enfant, comment dire, s'occuper d'un bébé, quoi. Et comme la loi de Simone Veil était sortie, c'était juste à ce moment-là, j'ai dit, je peux pas, avec mon mari, fais comme tu veux, ma chérie. Si tu veux pas, tant pis. Ça s'est pas fait quand même comme ça, hein, parce qu'il fallait que je voie quand même un psy. Elle a vu la gueule que j'avais, déjà, ça suffisait, hein. Oui, en effet, ça va être pas solide, là, hein. Non, docteur, je suis pas solide. Mais non seulement pas solide physiquement, mais même moralement. C'est pour ça que là, j'ai un rocher qui me vient et qu'on va me l'assommer sur ma tête. Voilà ce que je ressens, docteur. Alors que j'ai adoré, mais les enfants, j'adorais. Et c'est malvenu, mais c'est malvenu, ça. C'est terrible. Alors, je vois parce que là, je vais peut-être pleurer.
C'est pas grave, t'éteins.
Non. Je sais pas si c'est une auto-punition que je m'infligeais. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas voulu qu'on m'endorme. Il y avait l'anesthésiste, il y avait mon mari qui me tenait la main, et il y avait le gynéco, enfin, celui qui devait faire l'affaire. C'était des bougies, ça s'appelait les bougies. C'était des sortes d'aiguilles, je ne sais plus. J'avais comme des tiges de fer, ou je ne sais pas. C'est avec ça, bon bref. À un moment donné, j'avais tellement mal, je criais, et mon mari me dit, non, faites-lui la piqûre. Non, je ne veux pas de piqûre. Et j'ai tenu. Et pour moi, après des années, je me suis dit, je me suis infligé ça, parce que je devais me punir, peut-être, de le faire. Sûrement, hein, sûrement. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi ? J'ai tout senti. Mais je suis restée longtemps, et longtemps, des années à dire, cet enfant, il aurait cet âge. Parce que je savais la date à laquelle je l'avais fait. Et c'était son anniversaire. Et là, je souffrais.
Et là, vous avez une troisième grossesse alors que vous ne vouliez pas forcément d'enfant. Vous ne preniez pas de contraceptif à cette époque-là.
Et non.
Pourquoi ?
Ben, on calculait... comment c'était cette époque-là ?
Méthode Ogino.
Voilà, oui. C'est lui, hein. C'est mon mari qui faisait. Moi, je ne faisais pas. Lui, il faisait le tableau. Faisait, bon, allez, là, on peut pas. Tu parles. Après, j'ai pris les contraceptifs. Oui.
Vous prenez la pilule ?
Oui. Je prenais l'autométrodiol. Je me rappelle encore. L'autométrodiol.
Et pour votre épisode de dépression, vous avez, à l'époque...
J'ai fait 3 ans de thérapie. À cette époque-là, justement. 3 ans de thérapie. Comment c'est venu, j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que mon mari, comment il a été patient avec moi quand je passe dans des moments comme ça.
C'est la première fois sur les 45 mamies qu'on me raconte une histoire d'avortement où le mari était là. Toutes les autres mamies se sont faites avorter toutes seules.
Non, il était toujours avec moi. Toujours. N'importe quoi, il est toujours avec moi. Jamais il m'aurait laissé. Il me tenait la main. Ma chérie, allez, on t'endort. Non. Je vais vous raconter une petite anecdote avant que je connaisse mon mari. Hein. Alors ça va vous faire rire, mais bon. J'ai fait la connaissance avec mes copines. Je vais donc à Nice avec elles, sur la côte. Et puis je me dis, allez, va, on va faire un peu de fiesta, ben on rigole, tout ça. Et on va dans un comment ça s'appelait ça ? Le whisky à gogo. C'était une bio, où on danse.
Une boîte de nuit ?
Oui, une boîte de nuit.
Une discothèque.
Alors on se fait belle, c'est vrai. C'était bien. Et je connais un type qui m'invite, et là je tombe amoureuse. Ça, il n'a jamais su, hein. Mon mari, jamais, j'en ai parlé. Je tombe amoureuse ici. Il fait son service militaire à Toulon, il était marin. Mon petit marin aux yeux bleus. Et alors, pour moi, on passe 15 jours à Nice, moi je profite, tout ça. Bon, mes copines après elles rentrent, et je continue, moi, à rester avec ce type-là. Toujours un tout bien, tout d'honneur. Hein. Mais c'est pas ça. C'est que lui, il est vraiment tombé amoureux, mais amoureux fou. Et il me dit, je vais te présenter à mes parents. Je dis, mais c'est trop tôt. Mais j'avais même pas parlé de ma religion, rien. Mais je crois que même si je lui avais dit, il m'aurait dit, je m'en fous. C'est vrai, hein. Tiens-toi bien. Je rentre à Marseille. On correspond, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de téléphone, on correspond. Et puis il me dit, je descends à Marseille te voir, je ne peux plus tenir. Moi, folle, c'est folle de lui, hein, c'est vrai. Mais c'était un catholique, malheureux, c'est bête de dire ça, mais c'est comme ça, c'était comme ça. C'était, fallait épouser un juif, et c'est comme ça, mes soeurs l'ont épousé, et moi je dois faire ça, et c'est comme ça. Bon, bref. Alors, ce soir-là, alors moi j'ai menti, j'ai dit, si je ne viens pas, maman... C'est que je suis chez ma Marciano, tu parles. Après, je dis, non, mais je viendrai, je serai sûrement en retard. Je savais bien que je n'allais pas découcher. Je n'oublie pas les clés de la maison. Et ça, mais toujours sur un petit truc de rien du tout, le destin, pour vous dire. Ça a joué sur une paire de clés. Il était 2h du matin. Bon, on a discuté, on s'est embrassé, bref. Et il me dit, je tiens à toi, enfin bref, bon. Et puis je rentre à la maison. Pas de clé. Oui, comment je vais faire? Et c'était chez Tata Yvette. On était encore là-bas. Alors je tape doucement. J'avais peur de mon père. C'est toi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est dur, tu arrives. Mais tu es folle. Je mime, hein, peut-être. Mon Dieu, mais tu es folle, papa, il s'en. Il te tue ce soir. Bon, on verra demain. Bon, je me couche. Le lendemain matin, j'entends des bruits. Ouais, tu comprends, mais c'est un marin. Il m'avait donné une photo à lui, en marin. Alors, mais je ne me doutais pas qu'elle allait fouiller dans mon sac. Et elle voit, et puis derrière, les mots d'amour, bien sûr. Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est celui-là? D'où tu me le sors? Alors, j'ai dit, mais maman, c'est rien, c'est un petit amour, comme ça. J'avais peur de parler de... C'est fou quand même, hein. Et puis en fin de compte, tout le monde s'est mêlé. Ouais, tu comprends, chez nous, de toute façon, on fait pas. Ma soeur Yvette, pareil, tu devrais pas, Yann, quand même. Hein. Du coup, il m'écrit, et puis bon, après, moi j'ai espacé. Ben, il a compris que, sans rien dire de tout ça, de ma vie, de tout ce que j'étais, c'était ridicule. Fallait pas que j'aille avec lui, fallait pas que je l'épouse. J'ai coupé, court.
Et est-ce qu'un jour vous avez regretté?
J'ai eu beaucoup de, comment dire, des regrets, non. Des regrets, non, parce que, comme après mon mari, c'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose de beau, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été insensiblement. Ça n'a pas été ce coup de foudre que j'ai eu avec le garçon, hein.
Vous dites, vous faites que parler de votre accent. C'est parce qu'on dit qu'il y a un accent pied noir.
Oui. Ah ben oui. Non, parce que moi, quand je parle comme ça, pour moi, j'ai pas l'accent. Mais on m'a souvent dit, vous n'êtes pas pied noir, parce que vous avez l'accent. Enfin bon. Pour moi, je parle français bien. Je sais pas pourquoi.
C'est quoi être pied noir, c'est quoi?
Mange un peu.
C'est ça le pied noir. Et c'est oui, quelqu'un qui te force à manger quand tu n'as pas faim.
Eh bien non, mange. Oui alors, dites-moi. Le pied noir, c'est quelqu'un de volubile, quelqu'un qui est gai, quelqu'un qui dit les choses, tout ce qui passe par la tête, ça passe par la bouche automatiquement. C'est des fois même, des fois gênant. Des fois c'est un peu maladroit. Eh oui, c'est arrivé. On parlait tous avec le même accent. Juif ou autre, on parlait tous comme ça. Puis les gestes, hein, un peu italien.
Donc là, aujourd'hui, vous avez quel âge, là?
85 ans.
Incroyable. Mais c'est quoi la recette de cette forme?
Le caractère. Facile, enfin facile. Aime rire. Toujours positive aussi, quand même. Même quand je sombre, des fois, pensant à mon mari, je me relève. Hein, c'est long, une vie. Hein. C'est long et... Comment? C'est complexe. C'est long et c'est court à la fois. Mais c'est vrai que je me vois à mon âge maintenant, je me dis, mais pétard, il s'en est passé des choses. Hein. Oh, purée, tout ce que j'ai vécu. Et encore, j'ai eu une vie facile, hein, je ne dis pas une vie... C'était riche. Moi, j'ai vécu une vie riche. Mais pas une vie riche, pas matérielle. Non, une vie riche intérieure, une vie riche... C'est comme ça. Mais attention, ce n'est pas fini. La vie, c'est fait que de changements, voilà. Et au fur et à mesure, il faut s'adapter. Celui qui ne s'adapte pas est malheureux. Et c'est ça qui fait peut-être vieillir. Si tu n'acceptes pas, tu es tout le temps malheureuse. À quoi ça sert? Et ça t'enlaidit, ça te met des rides. Et à quoi ça sert? Non, ça ne sert à rien. Et ça a toujours été mon combat.
Eliane est la 45e mamie de ce podcast, la 45e rencontre. À chaque fois, on se note une chose que l'on a apprise et que l'on conservera pour le reste de notre vie. Aujourd'hui, je pars d'Eliane avec l'importance du caractère. La joie provoque la joie, l'acceptation de la vie provoque le bonheur et clairement, le bonheur est contagieux. Eliane est une leçon de vie à elle seule. L'entendre, c'est se rappeler que la vie se doit d'être riche, riche en amour. Alors merci Morgane pour cette rencontre et merci Eliane pour ton échange.
Et ça tient de mon père. Mon père le disait toujours. Sois combattante, ma fille. Combat.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. Merci à Helio, développé par Technosens, pour leur soutien et leur confiance sur cet épisode. À très vite avec une autre mamie dans les oreilles.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.